Amen. Béni soit Dieu. Vous pouvez prendre place. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte, la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, au chapitre 5, que nous lirons d'ailleurs à partir du verset 1er. Apocalypse 5, verset 1. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle et qui dit « Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre, écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et nous relisons le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. » Amen. Notre chapitre 5 se place à un moment qui est tout à fait crucial dans l'Apocalypse. Il s'agit de la mise en route du cycle des tout derniers temps, donc qui mène jusqu'au jugement dernier et à la fin du monde, de notre monde. Et jusque-là, il était question en quelque sorte de préliminaire, de préparatif. Au chapitre 1er, c'était la révélation de Christ en gloire, s'occupant des églises. Chapitre 2 et 3, c'était les lettres aux 7 églises pour être prêt au retour de Christ et à l'enlèvement de l'église. Chapitre 4, c'était la description du trône de Dieu dans le ciel et de ceux qui y sont présents dans cette gloire merveilleuse d'en haut. Mais voici en quelque sorte que les choses sérieuses vont commencer. Pourquoi ? Parce que ce fameux livre, scellé de 7 sceaux, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, c'est le programme prophétique détaillé et son ouverture va avoir des répercussions incroyables comme il n'y en a jamais eu, même de loin, dans l'histoire de notre monde depuis qu'il existe. Et voici que se pose la grande question au début du chapitre, qui va être trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et on se trouve là devant un obstacle de taille parce qu'il est écrit qu'en fait, à un moment, personne n'est trouvé digne ou ne se trouve digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors, notre première grande question, c'est pourquoi personne n'a-t-il été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Pourtant, on pourrait penser que dans les perfections du ciel, parmi tous les êtres de gloire et de puissance qu'il y a là, il allait s'en trouver un, même pourquoi pas plusieurs, qui seraient dignes, hein, Mais vous savez, cette idée-là, eh bien, elle est superficielle et elle est erronée, et ceci pour plusieurs raisons. Déjà parce que le contenu de ce livre est redoutable et il faut l'assumer. Et qui va avoir les épaules assez larges pour assumer ça, hein? Donc, il y sera question des jugements des sept sceaux, qui sont déjà terribles, qui vont eux-mêmes déboucher sur les jugements des sept trompettes, qui sont encore plus graves, et eux-mêmes introduiront les jugements des sept coupes, qui sont encore pires, avec les personnages impressionnants, parfois effrayants, qu'il faut y gérer, avec les enjeux éternels qu'il faut assumer. Et mes amis, pour ça, il faut tout un ensemble de qualités dans leur perfection. Il faut un parfait courage, il faut une parfaite justice, en même temps une parfaite sagesse, une parfaite mesure en toutes choses, une parfaite conviction qui ne se laisse ébranler par rien, une parfaite jalousie, avec une parfaite et sainte colère, un parfait équilibre, une parfaite cohérence, une parfaite inébranlabilité, une parfaite mémoire, un parfait souvenir des choses, un parfait amour, une parfaite miséricorde, une parfaite compassion. Il faut la toute puissance avec une parfaite autorité, il faut un parfait honneur, une parfaite paix et évidemment une parfaite sainteté. Tout ça en une personne. Tout ça en une personne. Et puis, il va falloir gérer un diable aussi. Alors, gérer le diable, donc, l'assumer, hein, donc. Et puis, en même temps, des milliers d'anges déchus, de puissances démoniaques en tout genre. Il va y avoir la bête, le faux prophète, la grande Babylone, une humanité profondément déchue avec l'aggravation de ses péchés, les conséquences de ses péchés depuis si longtemps. Il va falloir se confronter à des êtres endurcis, opposés à Dieu, rebelles, rempli de haine, incrédule au-delà de l'imaginable, des menteurs, des blasphémateurs, des criminels, des idolâtres, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, des adorateurs du diable, des ennemis acharnés de Dieu. Voilà, il va falloir assumer tout ça. Et non seulement ça, mais il va falloir chercher et essayer de trouver, au milieu de ce panier de crabes, ceux qui peuvent encore être sauvés. Parce que c'est ça le grand but de Dieu quand même dans l'affaire. Hein. Ceux qui malgré tout cherchent encore la vérité, cherchent encore ce qui est pur, cherchent encore ce qui est saint, ce qui est éternel dans ce contexte terrifiant de la grande tribulation qui se produira à ce moment-là. Ceux qui ayant un cœur sincère peuvent encore se convertir malgré les puissances de mensonges et de tromperies qui les entourent. Je dirais que c'est comme de plonger à main nue dans une grande cuve remplie de scorpions mortels pour essayer d'en sortir quelques petits mammifères innocents pour lui redonner la vie. Hein. Ou bien c'est comme vouloir délivrer un petit oiseau qui serait tombé du nid au milieu d'une fosse grouillante de serpents venimeux qui projettent leur venin, qui sifflent avec fureur. Et donc, pourquoi ? Parce qu'au travers de tous ces jugements, au travers de tous ces événements terribles des temps de la fin, Dieu inlassablement agit. Et il essaye encore et toujours de poursuivre cette œuvre de grand effort pour en sauver le plus grand nombre possible. Voilà, ça c'est la réalité. Or donc, commence d'après notre texte ce qui peut sembler un tour de toutes les gloires et de toutes les éminences du ciel. Expliquons-nous. Alors, dites-moi, vous, les anges, qui avez sauvé Lot et les siens de Sodome, donc, et qui avez annoncé ce terrible jugement là-bas, est-ce que vous n'êtes pas qualifiés pour ouvrir ce livre et ces sept sceaux, vous qui avez géré cette terrible situation ? Et pourtant, nous voyons un grand signe de dénégation de leur part. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas dignes. Et toi, archange Michel, toi qui as lutté spirituellement toutes ces semaines contre la puissance démoniaque qui dominait le royaume de Perse, ce qui nous est rapporté dans le livre du prophète Daniel, tu sais ce que ça veut dire ? Un combat spirituel d'envergure, tu l'as mené à terme avec succès. Et là encore, c'est avec force que Michel proclame que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de tellement plus grand que ce que lui peut assumer. Et toi, Gabriel ? Archange Gabriel, toi qui as fait l'annonce de la venue du Sauveur sur la terre, de manière si parfaite, avec différents acteurs, aux différents acteurs de ce grand événement, toi qui as géré cette situation si complexe, si délicate, avec tant de sagesse et de puissance à la fois, Et Gabriel nous arrête tout de suite en assurant qu'il est prêt à soutenir de toute sa force celui qui sera trouvé digne, mais que lui-même se sait infiniment insuffisant dans cette œuvre-là. Et nous pourrions prendre tous les anges puissants et glorieux dont il est question tout au long de l'Écriture sainte. Et un de ces anges, s'il apparaissait au milieu de nous, eh bien, on tomberait tous par terre comme morts à cause de sa sainteté et de la lumière divine qui est sur lui. Et cependant, tous diraient la même chose, nous ne sommes pas dignes, nous n'avons pas l'envergure, nous n'avons pas les qualités, ça dépasse notre nature même. Voilà. Et tout spécialement dans l'Apocalypse, voilà les quatre êtres vivants qui sont directement et continuellement en lien, en proximité avec le trône de l'Éternel. Ces quatre vivants dont Ézéchiel a eu une révélation qu'on peut qualifier de foudroyante dans le chapitre premier de son livre. Donc, ces êtres qui sont remplis d'une puissance de vie indescriptible, mais dont le secret est simple en fait. C'est qu'ils se déplacent à la vitesse de l'éclair pour accomplir la mission que Dieu leur confie et revenir à cette même rapidité, quasi instantanée, pour faire ce qui leur est le plus précieux, ce qui est infiniment précieux pour eux, la communion parfaite et étroite avec le trône et la proclamation continuelle et pleine d'adoration de sa sainteté. Ne sont-ils pas si près du trône et aussi continuellement en communion avec Dieu? Ne sont-ils pas dignes? Non, non et non, vous diront-ils, nous sommes prêts à proclamer la gloire de celui qui sera trouvé digne et nous le ferons avec une immense joie, avec un enthousiasme brûlant. Mais pour ce qui nous concerne, ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre mission et surtout, nous savons très bien que nous ne sommes pas dignes. Et nous pourrions voir tous ceux dont il va être question quand ce livre va être ouvert. Parce que là, il y a des anges qui vont apparaître, hein. Les sept anges aux sept trompettes du chapitre 8, les quatre anges liés sur l'Euphrate au chapitre 9, l'ange puissant qui tient dans sa main le petit livre ouvert dans le chapitre 10, les deux témoins puissants revêtus de sacs accomplissant des prodiges sur la terre pendant la grande tribulation qui vont être tués et qui vont ressusciter trois jours et demi après avoir été tués et enlevés au ciel dans le chapitre 11, Michel et ses anges combattant contre le dragon, chapitre 12, les trois anges qui volent à mi-ciel pour annoncer un évangile éternel dans le chapitre 14, les sept anges tenant les sept derniers fléaux dans le chapitre 15, l'ange puissant qui saisit une immense pierre pour la jeter dans la mer en signe de chute de la grande Babylone, chapitre 18. L'ange qui explique toutes ces choses à l'apôtre Jean, chapitre 19. L'ange qui descend du ciel, une chaîne dans sa main, et qui lie le diable et le jette dans l'abîme pour 1000 ans. Et les 12 anges qui gardent les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Et vous pourriez leur demander à tous, et pourtant combien certains sont puissants, combien ils sont sages, combien ils sont en communion avec Dieu, combien ils sont remplis de capacité d'amour pour Dieu, à un point que nous n'imaginons même pas, mais tous sont unanimes, tous vont vous dire avec cette même conviction, je ne suis pas digne, je ferai tous mes efforts, je me consacrerai totalement pour soutenir celui qui est digne, je souhaite de tout cœur qu'il soit révélé, je le suivrai de tout mon être, mais ce n'est pas moi. Il est tout à fait clair et évident que je ne suis pas digne. Et qu'en est-il de ceux qui sont juste mentionnés en passant? Ces êtres mystérieux dont nous ne savons quasiment rien. Hein, la voix qui sort du trône de l'Éternel, trône dans le ciel, la voix qui sort de l'autel, du sanctuaire céleste, les sept tonnerres, dont il est dit à Jean de sceller ce qu'ils ont dit, de ne pas l'écrire, parce que de toute évidence, c'est trop fort pour nous. Hein. Sans parler d'autres, et probablement de beaucoup d'autres, dont il ne nous est absolument rien dit, mais même eux, même du sein de leur mystère insondable pour nous, eh bien Jean a pu entendre ce même refrain, « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Et ce grand tour, il a dû durer tout un temps. Et Jean, qui était totalement pris dans la révélation, parce qu'Apocalypse, ça veut dire révélation, donc Jean attendait avec espoir que vienne celui qui serait trouvé digne et que ce livre soit ouvert et que le grand flot prophétique des plans de Dieu puisse couler avec force de la digue ouverte des sept sceaux qui le libéreraient progressivement. Mais voici, au bout du compte, personne ne paraît avoir été trouvé digne. Et à sa perception humaine à lui, donc, c'est un grand sujet de déception. Est-ce qu'il est possible que le dessein de Dieu soit empêché, ou même simplement qu'il soit retardé, qu'il soit repoussé, et le voilà qui pleure. Il nous a dit qu'il pleure beaucoup, parce qu'il est grandement chagriné. Pourquoi ? Parce qu'il aime Dieu, il aime son Seigneur, il aime sa volonté, il aime que l'œuvre de Dieu se fasse, parce que c'est sa vie, parce que c'est sa vocation, parce que c'est à ça qu'il s'est totalement consacré. Que Dieu bénisse aujourd'hui, frères et sœurs, ceux qui pleurent quand Dieu n'est pas glorifié, quand l'œuvre de Dieu périclite. Que Dieu bénisse ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment son service, ceux qui aiment s'y consacrer et ceux qui consacrent leur vie et tout ce qu'ils ont de plus cher. Alléluia. Amen. Et certainement aussi, s'il pleure beaucoup, c'est qu'il pleure longtemps, parce que le silence dure. Après qu'il ait été constaté unanimement que personne n'est digne. Mais vous savez, ce qui paraît pour l'homme un silence de défaite ou d'échec, un silence interprété comme un aveu d'impuissance, c'est en réalité un silence qui est indispensable pour la suite. Donc, un grand silence qui va contribuer au coup de théâtre qui est préparé par le grand ordonnateur de toute la scène. Vous savez, mes amis, combien les silences de Dieu peuvent être parlants parfois. C'est une réalité, ça. Combien des silences qui sont importants. Combien de situations, je dirais même, oui, où des chrétiens auraient mieux fait de fermer leur bouche et de se taire plutôt que de babiller inconsidérément. La parole est d'argent, mais vous connaissez la suite. Le silence est d'or, on le dit. Encore faut-il le vivre. Donc, que de situations où le silence, la prière et la confiance en Dieu ont fait tellement plus et mieux que les parlottes par lesquelles on a pensé régler nos comptes et faire nos propres justifications. Oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. En tout cas, dans la situation de notre texte, le silence solennel de l'attente, le silence de la pleine espérance, parce que c'est l'attitude de tous les protagonistes célestes de cette situation, ce silence positif, ce silence qui s'attend à Dieu, ce silence qui s'attend à ce que Dieu fasse infiniment plus et mieux que ce que nous imaginons et pensons, ce silence de pleine foi donc va être la meilleure introduction à la révélation de celui qui va apporter la solution, qui va être la solution même, bref, celui qui va être digne, lui seul, entre tous, sans la moindre contestation, avec une approbation unanime et pleine d'allégresse. Amen. Et voici notre grand point suivant, le dévoilement de celui qui est digne. Voici dévoilé la solution, c'est pas l'ange d'ailleurs qui la dévoile, comme il avait dévoilé bien des choses jusque-là, au prophète, donc à Jean-Baptiste, mais c'est par un homme. C'est par un des 24 anciens, un des 24 représentants du peuple de Dieu, parmi les hommes de tous les temps, qui se trouve là dans le ciel. Donc un de ces 24 qui, mieux que les anges, savent et comprennent ce que Christ a accompli pour les hommes, parce que ça les concerne directement, les hommes. Le rachat par Jésus-Christ, ça ne concerne pas les anges, ça concerne les hommes. Donc c'est eux qui sont aux premières loges pour bien saisir cela. Et comment va-t-il présenter celui qui est digne? Comment va-t-il parler de lui? Il va dire « le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David ». Voilà qui nous parle d'une part de son origine humaine, bien sûr, parce que Jésus-Christ s'est fait homme, et puis aussi de son origine juive, parce que, vous savez, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel en ce qui concerne Israël, son peuple. D'ailleurs, c'est Israël qui reprend toute sa place après l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse. Et voilà qui nous parle du plein accomplissement des anciennes prophéties de la parole de Dieu. Voilà qui nous parle de son accès à la royauté, qui raconte donc la royauté messianique, la royauté suprême, son établissement comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et l'ancien, parmi les 24, rappelle aussi qu'il a vaincu. Vaincu, ça veut dire qu'il y a eu un combat. Ou plus exactement, Vetsaba Gadol, ça veut dire une longue guerre en hébreu. Il y a eu une longue guerre, parce que l'adversaire depuis longtemps a voulu empêcher l'advenue de tout cela. Parce qu'il sait que si, par exemple, dans la Genèse, au début de la Bible, sa condamnation à lui est annoncée, qu'elle est prophétisée, dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, sa condamnation est exécutée. Et c'est pour ça qu'en lisant les Évangiles, par exemple, nous voyons, nous discernons sourdement, mais puissamment et réellement, cette guerre continuelle que Satan a livrée à Christ pour qu'il ne puisse pas accomplir son œuvre. Et pourtant, il l'a réalisé complètement. Rappelez-vous, dans son dernier discours, avec ses disciples sur la terre, avant la crucifixion, il a s'adressé au Père, la prière sacerdotale, il lui a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Et lorsqu'il meurt sur la croix, son dernier cri de victoire, sa dernière parole avant qu'il ne rende l'esprit, c'est « Tout est accompli, alléluia ». Et ainsi, la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà ce que dit l'ancien parmi les 24, un homme excessivement exalté en parlant de Christ, et ce qu'il dit est juste et bon et vrai. Mais maintenant, voyons la différence surprenante, d'ailleurs très inattendue, entre ce que cet homme dit et ce que Dieu montre. Hein, voilà. Vous savez, les pensées de Dieu sont très très loin au-dessus de nos pensées. Et ses façons de faire, ses voies sont bien bien loin au-dessus de nos propres voies. Il y a une vingtaine de choses importantes pour nous qu'il est bon de préciser. Déjà, à son sujet, l'idée qu'il est sur le trône. Celui qui est digne est sur le trône. Il est sur le trône suprême de l'univers. Il est non seulement sur le trône, mais il est au milieu du trône, est-il dit. Ça veut dire qu'il n'est pas sur le bord, il n'est pas sur un strapontin, il n'est pas en concurrence avec qui que ce soit, il est le centre. Et ceci doit nous encourager à ce qu'il soit le centre de notre vie, qu'il soit au centre du trône de notre cœur et qu'il y règne pleinement et sans partage. Amen. Il est aussi au milieu des quatre êtres vivants. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire en peu de mots, ceux-ci sont supérieurs en puissance de vie débordante, même parmi tous les êtres célestes. Ils s'en font remarquer par l'intensité de vie dont ils débordent continuellement. Ils vont et viennent à la vitesse de l'éclair, de sorte qu'on n'a pas le temps d'ici-bas, en tout cas, de voir leur déplacement, tellement ils reviennent vite à la source de toute force et de toute vie, qui est le Seigneur éternel sur le trône et Christ au centre du trône. Et je crois que c'est un encouragement, un exemple pour nous à rechercher toujours la communion de notre Seigneur. Donc, il est au milieu, pour revenir à celui qui est digne, il est au milieu des 24 anciens, qui, nous l'avons dit, représentent les rachetés de l'éternel de tous les temps, originaires de tous les peuples et du monde entier. Il est aussi leur centre d'amour, d'adoration, de service, de louanges, de reconnaissance et de cantiques inspirés. Et puis voilà la divine et extraordinaire surprise. C'est un agneau. L'ancien avait parlé du lion de Juda, rappelez-vous. On n'aurait pas été étonné de voir un lion au milieu du trône. Ou alors, après la révélation du chapitre 1er, la révélation de Christ au chapitre 1er, cette révélation, cette église, on aurait pensé le voir... Là, c'est un personnage semblable à un fils de l'homme, avec une grande robe immaculée comme la neige, la tête et les cheveux blancs comme la laine blanche, les yeux comme une flamme de feu, suivant ce qui est décrit dans le chapitre 1er, les pieds semblables à de l'airain ardent, de sa bouche sortant une épée aiguë à deux tranchants, son visage comme le soleil quand il brille dans sa force, tenant les clés de la mort, du séjour des morts. Mais non, c'est un agneau, parce que c'est par la représentation de l'agneau que Dieu met en évidence la manière dont la victoire a été remportée, dont elle a été remportée sur le diable et sa puissance, sur le péché et sur la mort. Car c'est en s'offrant comme victime expiatoire pour nos péchés et pour racheter les perdus que cette victoire a été obtenue. De plus, est-il dit, c'est un agneau immolé, Chouraki ajoute, un agneau égorgé. Ben oui, c'est ça la réalité. Et il est là, présent, offert à la vue de l'univers entier, pour nous montrer, d'une part, qu'il a été lui-même sacrifié pour les péchés du monde et que ça ne s'est pas fait par procuration. Et puis, d'autre part, pour rappeler que c'est dans son corps qu'il s'est offert ainsi. Hein, c'est pas juste en esprit, mais c'est physiquement qu'il l'a fait. L'Épître aux Hébreux nous rapporte cet échange qu'il y a un moment entre le Père céleste et le Fils éternel. Et alors le Fils s'adresse au Père, il lui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et d'autre part, si l'agneau est représenté comme immolé, c'est aussi pour nous rappeler que ce sacrifice est toujours actuel, qu'il est toujours pleinement valable et efficace pour notre salut à nous aujourd'hui, pour notre victoire en lui, sur toute la puissance de l'ennemi et sur toutes ses tentatives. Et donc, il demeure là, image choquante et sanglante du sacrifice, pour nous montrer combien il s'agit de quelque chose d'important aux yeux de Dieu et qui ne peut pas être négligé, minimisé ou contourné. C'est le seul moyen d'être sauvé. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà ce que nous rappelle l'Évangile. Et lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Considérez ensuite que cet agneau a 7 cornes. Dans le langage prophétique, biblique, la corne, c'est l'image de la puissance. Le nombre 7, c'est celui de la plénitude. Et ça nous parle donc de cette plénitude de puissance divine qui est celle de cet agneau. En fait, c'est la puissance de la résurrection donc, qu'il a acquise au travers de son sacrifice. Il a obtenu la victoire sur la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Et il fait aussi bénéficier ses rachetés de cette puissance. Et c'est pourquoi en lui, nous avons la victoire sur le péché dans nos vies. Nous pouvons compter sur l'exaucement miraculeux de sa part à la prière qui est faite dans son nom. Et nous pouvons croire qu'il est celui aussi qui ressuscitera nos corps au grand jour de la résurrection. Qu'il est celui qui a la toute puissance pour nous faire marcher en nouveauté de vie à sa gloire. Amen. Amen. Et puis c'est cette corne, c'est aussi lié aux 7 yeux dont il est question là. Et ça, c'est l'image de sa parfaite vision de toutes choses, de sa parfaite connaissance, de sa parfaite pénétration de toutes choses, pour savoir ce qui est en chacun de nous infiniment mieux que nous-mêmes. Ainsi est-il écrit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il écrit encore, tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Et là encore, le nombre 7 est là pour nous montrer qu'il voit et connaît toutes choses parfaitement dans nos vies, que rien ne lui est caché, que rien ne lui échappe et que nous avons évidemment tout intérêt à entretenir avec lui des rapports entièrement basés sur la sincérité, sur la transparence et la vérité. D'ailleurs, nous ferons bien de le faire avec nous-mêmes en premier parce qu'il ne sert à rien de nous raconter à nous-mêmes des histoires. Hein. Et puis il nous a expliqué aussi que les 7 esprits de Dieu, non seulement sont avec lui, mais qu'ils font littéralement partie de lui, puisqu'ils sont représentés comme ces 7 cornes et ces 7 yeux qui font partie de ses organes, qui font partie de son corps, de ses membres. Et là encore, le nombre 7 est là pour nous montrer qu'il y a en lui l'Esprit de Dieu en plénitude. Et comme il en a déjà été question dès le début du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 1, verset 4, vous avez déjà les 7 esprits de Dieu qui sont là. Il en sera aussi question tout à la fin, où là il est question de l'Esprit de Dieu, donc Apocalypse 22, verset 17. Et ça nous rappelle combien le Saint-Esprit est à l'œuvre tout au long de cette révélation qu'est l'Apocalypse. Et voici en même temps la démonstration que le Père ne lui a pas donné l'Esprit avec mesure, et que par conséquent, c'est lui et nul autre encore, qui au travers de son sacrifice demeure la source suprême de la plénitude et de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit, ils cherchent la puissance du Saint-Esprit, mais ils ne se tournent pas vers Jésus. Et c'est un problème majeur, parce que ce passage est là, parce que Jésus, lui, peut légitimement proclamer « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Jean chapitre 4, verset 14. Dans Jean chapitre 7, un peu plus loin, il est marqué « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Encore faut-il, pour expérimenter cela, avoir réellement et profondément soif. Dans le verset 36, juste avant le dernier passage que je viens de lire, Jésus disait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Encore faut-il désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. L'autre jour, j'ai vu un bébé dans une poussette ici, et puis apparemment, c'était de toute évidence l'heure de manger, mais voilà, tout n'était pas encore prêt pour ça. Alors, la maman essayait de le tromper par divers artifices que les mamans essayent d'utiliser pour un petit peu faire patienter l'enfant. Hein. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Ça dure pas longtemps. À un moment, il a commencé à pleurer. Hein. Et c'est normal, vous savez, vous ne racontez pas des enfants. Parce qu'ils veulent boire, ils désirent cela. Et que l'Écriture nous dit, il faut que nous désirions, comme des enfants, nous voulons le lait spirituel pur. Encore faut-il soupirer puissamment après le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Et là encore, la promesse est pleinement valable. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen, amen. Et puis, il nous a dit que ces sept esprits sont envoyés par toute la terre. Et ceci nous montre d'une part que le Seigneur, même en se tenant au milieu du trône, ne perd pas de vue la question du salut des hommes sur la terre. On le voit. Hein. Et même de tous les hommes sur la terre. Et que par son esprit, il est attentif pour détecter, pour discerner ceux qui le cherchent, ceux qui le craignent, où qu'ils soient sur notre globe, même dans les lieux, à nos yeux, les plus reculés, les plus difficiles d'accès. Et plus que jamais, nous avons là une évidence que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et plus que jamais, nous avons là aussi un encouragement à annoncer l'évangile à toute créature, avec l'assurance que le Seigneur va nous guider spécialement vers ceux qui sont bien disposés et qu'il va soutenir d'une façon particulière les efforts qui sont faits pour les gagner à Christ. Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en tout lieu pour accompagner puissamment les témoins de Christ et les prédicateurs de l'évangile, pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, et puis ensuite pour les faire passer par l'expérience de la nouvelle naissance, parce que c'est par le Saint-Esprit que cela se fait. Puis ensuite, pour les baptiser aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'est évidemment par lui. Et les remplir aussi de son fruit, les remplir du fruit de l'Esprit. Toutes ces œuvres merveilleuses sont tout spécialement ses prérogatives et opérées par lui admirablement. Remarquez ensuite que celui qui est digne, là, cet agneau, reçoit l'adoration des quatre êtres vivants et des 24 anciens, exactement comme celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Père Céleste, avec la même légitimité, avec la même acceptation, parfaitement consciente de son mérite et de sa dignité. Et puis il nous est dit aussi au verset 8 qu'il reçoit les prières des saints. Ça veut dire qu'il agit dans une capacité divine pour les exaucer. Il a un immense pouvoir d'exaucement. N'allez pas chercher ailleurs qu'en Jésus-Christ, votre avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, alléluia. N'allez pas chercher quelqu'un qui intercède pour vous ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il est plus que suffisant. Il intercède en notre faveur. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est lui qui défend notre cause face aux accusations perfides de l'adversaire. Et il est évident que quand les prières des saints sont accompagnées, comme ici, de l'encens, de la reconnaissance, de l'adoration, de la louange, de l'action de grâce, eh bien, elles sont des manifestations de foi d'autant plus agréables à ses yeux et sont d'une grande efficacité par leur ferveur persévérante. Amen. Amen. Et considérez d'ailleurs que la sainteté, c'est aussi pour lui un point majeur. Hein. N'ayons pas une conception erronée de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le fait de n'avoir jamais péché. La sainteté, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. La définition biblique de la sainteté, c'est celle-là. Hein. Ce sont les prières des saints qu'il reçoit. Donc, pourquoi ? Parce que vous avez là la bonne odeur de la sanctification. Vous avez la bonne odeur de la consécration à Dieu. La bonne odeur d'une vie dans laquelle Jésus-Christ est véritablement le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La bonne odeur d'une vie dans laquelle le premier amour est pour Christ et dans laquelle, par conséquent, sont pratiquées aussi les premières œuvres. La bonne odeur de l'âme qui met en œuvre ce précieux commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Et la bonne odeur des prières de ceux qui aiment leur Seigneur d'un cœur non partagé, d'un cœur entier, et qui le prouvent par un service volontaire et de bonne volonté. Amen. Amen. Et voici qu'il est question, verset 9, d'un cantique nouveau qui lui est adressé et qui est accueilli par lui. Un cantique extraordinaire de beauté, de nouveauté, de profondeur, d'harmonie tout à la fois, et quelle joie céleste de pouvoir entendre un jour ces accents ravissants, quelle joie de savoir que c'est pour bientôt. Vous savez, parfois sur cette terre, on anticipe un peu cela. Parfois sur cette terre, on entend de beaux cantiques, on entend des hymnes spirituels, et puis ici ou là, on peut saisir une note, on peut saisir un bout de mélodie, on peut saisir une phrase inspirée qui nous donne un léger avant-goût de ce qu'il va y avoir là-haut. Hein, déjà. Alors on commence déjà à être transporté de joie et transporté de louange. C'est encore bien peu de choses, évidemment, par rapport à la glorieuse réalité qui nous est annoncée là. Et cependant, quel encouragement, quelle édification, quelle bénédiction, quelle joie d'en haut déjà dans notre cœur. Et ça vaut la peine donc, frères et sœurs, de chanter des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels de tout notre cœur. Ça vaut la peine d'en apprendre de nouveau. Ça vaut la peine de rechanter les anciens avec un esprit renouvelé et une foi approfondie, et que ce soit pour notre glorieux Sauveur et Seigneur que nous ayons à cœur de le faire de toute notre âme. Amen. Amen. Et dans ce cantique, et voilà, on entre un peu dans le détail, il nous est rappelé, expliqué les raisons pour lesquelles il est proclamé digne, parce qu'il faut quand même parler de ces raisons. Hein, donc, eh bien, c'est marqué, donc il est marqué dans ce chant. En premier, déjà parce qu'il a été immolé, sacrifié volontairement. Et puis, il est continué en disant, parce qu'il a racheté les hommes par son sang précieux. Et combien en a-t-il racheté ? Eh bien, autant que ceux qui ont voulu. Autant que ceux qui ont voulu, autant que ceux qui sont venus à lui, sans en refuser aucun. Et il l'a fait sans distinction de tribu, de peuple, de langue et de nation, mais aussi sans distinction de mérite et de préférence. L'apôtre Paul nous dit « Dieu a renfermé tous les hommes sous la désobéissance afin de pouvoir faire le mille faire miséricorde à tous. » Alléluia. Hein, donc, il n'a rejeté aucun de ceux qui ont voulu venir à lui. Et puis, ce cantique dit qu'il est digne parce qu'il a fait d'eux un royaume, le royaume de Dieu, dont il les a établis citoyens, avec tous les avantages extraordinaires et les responsabilités très honorables qui y sont attachées. Et puis parce qu'il a fait aussi des sacrificateurs pour notre Dieu, est-il dit, apportant des sacrifices donc de louange, de prière, d'adoration, d'intercession, de vie consacrée à son service, d'action de grâce, de remerciement. Et ils sont donc, ces sacrifices, oui, objets de grandes bénédictions et de grandes bénédictions, de grands exaucements, pardon, donc pour ces sacrificateurs. Et ensuite, encore une autre raison, parce qu'il a agi pour qu'il puisse régner. Alors déjà maintenant, déjà aujourd'hui, déjà sur cette terre, l'apôtre nous dit que tous ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Voilà déjà ce qu'il nous est dit pour ici-bas. À combien plus forte raison régneront-ils dans l'existence éternelle quand ils entreront pleinement en possession de ce que Christ prépare pour eux. Alléluia. Il est marqué qu'ils pourront régner sur la terre. Oh, pas la terre qu'on a aujourd'hui, cette terre qui va à la destruction, qui va malheureusement à cette décadence accélérée, quand on peut voir, non. Ce sera une terre refaite, régénérée. Lorsque l'actuel prince de ce monde, le diable, aura été neutralisé, qu'il aura été jeté dans l'abîme, et que le légitime roi de tout l'univers, Christ, aura repris toute sa place de suprême autorité. Amen. Et il faut réaliser que tout ça, ça ne s'est pas accompli par hasard, ça ne s'est pas fait au petit bonheur la chance, hein. Ce n'est pas comme ça. Non, il a agi pour réaliser un plan bien préparé, une œuvre minutieusement anticipée à l'avance. Il était parfaitement conscient de l'énorme prix qu'il allait avoir à payer pour y parvenir. Et les grandes victoires qu'il a obtenues, les actes héroïques qu'il a accomplis, n'ont pas été le fait du hasard. C'est l'histoire de cet homme, considéré comme un héros parce qu'il avait réussi un jour à tuer un lion à coup de hache. Alors tout le monde l'admirait pour cet acte très courageux, mais cet homme n'était pas convaincu lui-même. Et il s'expliquait. Il a dit « Voilà, j'étais parti en forêt pour couper du bois avec ma hache, et je ne savais pas qu'il y avait un lion dangereux et agressif dans cette zone, sinon je n'y serais pas allé. » Et puis d'un coup, je me suis retrouvé face à l'animal qui s'est précipité vers moi. Alors, je n'avais pas de refuge pour fuir. En désespoir de cause, j'ai fait face à l'animal et j'étais assez heureux pour lui administrer un coup d'hache qui l'a blessé, qui l'a étourdi un instant. Et puis, ma foi, j'ai eu la présence d'esprit, oui, de profiter immédiatement de mon avantage pour administrer d'autres coups, ce qui m'a permis d'achever l'animal. Et ainsi admettait-il que s'il s'était conduit en héros quelque part, eh bien c'est parce qu'il y était forcé, parce qu'il n'avait pas pu faire autrement, et puis qu'il ne serait certainement pas sorti ce jour-là s'il avait su que le lion était là. C'était quelque part un héros malgré lui, hein, un héros d'occasion, il faut quand même le faire, mais bon, hein, on est d'accord. Hein. Mais il n'en a pas été ainsi pour Jésus. Il faut qu'on sache cela. Jésus savait qu'il lui faudrait affronter bien plus qu'un lion. Il faudrait affronter le grand dragon rouge, le diable, Satan, le châtiment du péché, et la bête, et le faux prophète. Il faudrait affronter la mort. Il savait exactement à qui il avait affaire et ce qui était en jeu. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est mener cette œuvre à son terme, dans la continuation de ce qu'il a accompli jusque-là. Et l'ouverture de ce livre avec ses sept sceaux va exactement dans la suite et dans le plein achèvement de cette grande œuvre qu'il a entreprise bien avant, il y a bien longtemps déjà. Et c'est pour tout cela qu'il est digne. Amen. Et ainsi voyons-nous que les quatre êtres vivants, qui sont donc les plus proches du Seigneur, les 24 anciens, qui sont les représentants des hommes, c'est-à-dire de nous, les plus directement confrontés par l'œuvre de Christ. Donc ces quatre êtres vivants, ces 24 anciens, sont ceux qui, en premier, entonnent le cantique nouveau à la gloire de Christ et de l'œuvre magnifique qu'il a entreprise et qui le rend digne de cela. Voilà, donc c'est eux qui commencent. Après, au verset 11 et 12, il nous dit que les anges continuent. Non seulement ils proclament que Christ a été immolé, et ça pour eux c'est le grand mystère, hein, dans lequel ils désirent toujours plonger leur regard, et non seulement ils proclament que Christ est digne d'ouvrir le livre et ses sept sceaux, mais ils proclament encore qu'il est digne de recevoir sept choses. Sept choses. Alors, de ces sept choses, vous en avez deux sortes. La première sorte, c'est les choses qui sont nécessaires pour pouvoir gérer le contenu, le déroulement des événements du livre au fur et à mesure que les sept sceaux vont être ouverts l'un après l'autre. C'est-à-dire, en premier, la puissance. En deuxième, la richesse. En troisième, la sagesse. En quatrième, la force. Voilà, ce sont les quatre premières choses. Et après, les trois autres choses qui sont rajoutées, elles sont en récompense, en manifestation de la dignité qui est la sienne à ses yeux. C'est pour ça qu'il est question en cinquième de l'honneur, en sixième de la gloire, en septième de la louange. Et ces anges, vous savez, ils ne chantent pas aux petites, là encore au hasard, ils savent exactement ce qu'ils chantent et pourquoi ils le chantent. Et nous pouvons considérer, frères et sœurs, aussi que si nous nous appliquons à travailler au royaume de Dieu, bien le Seigneur aussi pourvoira nos besoins selon sa puissance, sa richesse, sa sagesse et sa force. Et il saura aussi honorer, glorifier et faire et mettre la bénédiction sur les siens. Amen. Voilà, concernant les anges. Après, au verset 13, vous avez toutes les autres créatures qui reprennent, non pas toute la liste des anges, remarquez bien, mais reprennent juste les quatre derniers éléments de la liste des anges. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, et à l'envers d'ailleurs, ils les reprennent. Hein. C'est-à-dire, ils parlent de la force, ils parlent de l'honneur, de la gloire et de la louange. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ça ce qui les concerne directement. C'est ça, je dirais, ce qu'ils saisissent le mieux pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils proclament cela. Et puis ensuite, vous pouvez remarquer qu'ils réunissent le Père et le Fils divin dans une même glorification et une même adoration. C'est dans le verset 13, et on pourrait le relever d'ailleurs encore d'autres passages de l'Apocalypse dans lesquels il en est de même. Et la confirmation finale, et nous arrivons, c'est notre tout dernier point, la pleine approbation de l'ensemble, ça vient de qui ? Et ça vient de ceux qui ont commencé. C'est-à-dire que ça vient des quatre êtres vivants et des 24 anciens, pour louer, adorer et dignifier. Ayant introduit, ce sont eux qui concluent. Amen. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il y a quelques mois maintenant, de voir les images du jubilé des 70 ans de règne de la reine Élisabeth d'Angleterre. Ah, c'était quelque chose, c'était quand même quelque chose, hein, cette cérémonie-là. Et puis, une autre cérémonie qui a suivi, hein, donc, la concernant aussi, cette fois, son décès, son enterrement, ça aussi, c'était une cérémonie d'une magnificence remarquable, avec un faste de cérémonie réglée comme une chorégraphie de haute volée. Donc, mais tout ça, mes amis, tout ça, si on le compare à la manière dont la dignité de Christ est proclamée et mise en évidence, je dirais c'est un peu comme si on compare un gribouillage d'un gamin au début de la maternelle avec l'œuvre la plus célèbre d'un artiste comme Rembrandt ou comme Vermeer ou je ne sais pas qui vous avez à cœur. Voilà. Hein. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'il est digne, combien il l'est, combien il sera proclamé qu'il l'est. Déjà glorifié à présent, il le sera encore plus alors. Alléluia. Et il est infiniment digne de régner définitivement et sans partage dans notre cœur. C'est nous qui sommes indignes. Hein. Il nous fait un grand honneur de bien vouloir nous sauver, de venir frapper à la porte de notre cœur, d'entrer dans notre cœur, d'y demeurer par son esprit. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Qu'il soit établi fermement et définitivement, non seulement comme sauveur, mais encore comme Seigneur et comme roi des rois. Amen. Alléluia. Quelques annonces. Donc, je rappelle la mission qui a lieu à Besançon cette semaine du mardi 25. J'entends bien, ça commence mardi, hein, mardi soir, au vendredi 28. Il n'y a pas d'école du mercredi pour les enfants pendant la période des vacances scolaires. La réunion de prière a bien lieu mercredi à 20h15. La réunion d'évangélisation vendredi à 20h15. L'évangélisation dans les villages samedi. Rendez-vous ici à 14h30. Et je vous rappelle que nous avons prévu des activités pour les jeunes. La semaine suivante, donc les 1er et 2 novembre. Alors, manifestez-vous sans tarder pour y participer. Et puis, vous avez aussi, entre-temps, le changement horaire de la nuit du 29 au 30 octobre. Voilà, et ça, comme ça, bon, vous pouvez dormir un peu plus si vous voulez.